Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur Attitude. Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com pour pouvoir nous suivre où que vous soyez en France. Nous accueillons aujourd'hui, vous êtes bien dans Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h15, 19h45, pardon. Nous accueillons aujourd'hui un champion du monde et un champion du monde charentais, c'est Greg Black. Greg, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous.
Bon, alors ça a été une année riche pour toi, hein, dans la mesure où tu as eu des résultats. Ce que je peux faire, c'est rappeler ton palmarès. Donc tu es champion en 2014, tu es champion du monde STK, donc Junior Team Suzuki, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Donc tu es champion du monde en EWC en 2020 et 2021, deuxième en 2022.
Ouais.
Et cette année, quatrième, ce qui reste quand même un bon résultat. Donc ce que je te suggère, Greg.
Deuxième aussi cette année, ouais. Deuxième cette année.
Ce que je te suggère, c'est on va retracer donc événement par événement ta saison 2023. Donc on a commencé par les 24 heures du Mans où tu termines septième. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu cette course.
Finalement, une première course de l'année qui s'est déroulée donc sur le circuit du Mans, que tu connais très bien. Et on avait fait des bons essais cet hiver. Par ailleurs, on a fait la pole position pour la course. On était vraiment tout est bien parti pour faire un bon résultat. Malheureusement, au départ, je suis parti en tête. Et dès le premier virage, un pilote un peu trop optimiste m'a foncé dedans. Donc, du coup, l'équipé qui a eu une grosse chute dès le premier virage, dès 24 heures. Donc, la moto qui est partie un peu de haut, beaucoup de dégâts. Et donc, une moto que j'ai dû ramener au stand. Et finalement, le team l'a très bien réparé. On était à la dernière position avec plus de 5 tours de retard à la dernière place. Donc directement au bout d'une heure de course, c'était compliqué. On a passé la course entière à être les plus rapides en piste, à être l'équipe la meilleure en piste, mais on a pu remonter qu'à la 7e place avec ce gros souci qu'on a eu. Ça nous a fait remonter qu'à la 7e place. Les équipes de devant ont pas eu de problème, donc ils ont réussi à marquer des points en plus de là. Donc, l'épreuve un peu difficile, ça change de performance qu'on avait là.
Ensuite, c'était bien les 24 heures de Spa Francorchamps, c'est ça?
C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, 24 heures de Spa.
Donc, quatrième.
Également, une belle semaine où tout était bien parti. On a fait des bonnes qualifications, on est parti en tête de la course. Du coup, on a mené la course pendant quasiment 16 heures de course. Et on était vraiment vraiment dominant sur cette course-là. Et malheureusement, on a eu un problème technique sur la moto qui nous a contraint à rentrer au stand pour plus de à peu près 12 minutes au stand. Et donc au final, on perd la victoire et on finit à la quatrième place. Donc une fois de plus, un peu déçu parce que on avait clairement la performance, mais il nous a manqué de chance.
C'est un beau circuit, le circuit de Spa, non?
Ouais, c'est magnifique à rouler. C'est vraiment un circuit rapide, très sympa à rouler. En tant que pilote moto, voilà, c'est un peu vallonné, rapide et un beau trafic. On a des belles conditions, donc c'était une belle épreuve cette année à Spa.
Donc ensuite, direction le Japon, donc avec les 8 heures de Suzuka où tu termines 11e.
Ouais, donc on va dire que les choses se repartent. On les a mis 203 et donc là, c'est notre troisième. La chance de l'année. On a également fait des très bonnes qualifications. J'apprends là-bas, c'est une situation particulière, des conditions particulières. On a réussi à tirer notre épingle du jeu pour finalement en course faire une très belle course et être à la deuxième place à la Guyère. C'est un résultat assez exceptionnel pour nous. Donc du coup, on allait finalement monter sur une belle marge de podium. Et derrière, c'est un exploit qu'un team européen et des pilotes européens qui sont montés sur le podium à Suzuka. Et là, on était deuxième. Et il y a une heure et demie de la fin de course, il s'est mis à pleuvoir. Mon team m'a donné des indications pas très précises par l'équipe qui m'ont poussé à rentrer au stand. Et normalement, j'étais en fin de relais, donc c'était mon coéquipier qui aurait dû repartir. Et finalement, mon coéquipier n'était pas prêt, mon team a décidé de me faire repartir. Et avec des pneus pluie, avec des conditions un peu difficiles. Et au final, j'ai commis une erreur, j'ai touché la bande blanche en sortant des stands après seulement un demi-tour, et donc je suis tombé, ce qui a fait qu'on a perdu peu de temps, mais assez de temps à Suzuka, c'est une bonne 8 heures pour finir à la 11e place au lieu de voler la 2e.
Est-ce que depuis tout jeune, tu pratiques toujours cette activité d'endurance? T'as jamais fait plus court sur des circuits où il y a un certain nombre de tours, hein, où ça a toujours été ta passion, l'endurance?
Non, au début de ma carrière, j'ai toujours fait de la vitesse. Donc, quand j'ai commencé en 2004, en 125 km cube, j'ai toujours fait de la vitesse. J'étais en chemin d'Europe, en chemin du monde en 600. En 2006, 2007, 2008, 2009, je faisais... D'une année, je roulais en vitesse. D'ailleurs, j'étais venu champion d'Europe en 600, j'ai fait champion de France en 2014 en Tourmalet, donc des courses de vitesse aussi. 2013, pratique au championnat. 2015, j'ai été champion de France aussi. Et en 2011, j'ai fait des remplacements super fort. Et en 2016 et 2017, j'ai fait le chemin du monde en 800 mètres cube. Donc, j'ai longuement fait de la vitesse. Et à la base, j'ai commencé l'endurance pour découvrir les 1500 mètres cubes et pour découvrir Elmo en vitesse, en fait. Et finalement, j'ai réussi à me faire une belle place en endurance. Et je dirais que c'est un peu comme un métier. Aujourd'hui, on va dans un milieu, on est guidé un peu par les offres et les demandes. Et finalement, j'ai eu des belles offres en endurance, des belles opportunités. Et c'est un milieu qui m'a quand même plu. Donc finalement, je suis resté dans le milieu. Et pour finalement... dans la famille Suzuki et qui, eux, participent grandement au championnat du monde d'endurance et c'est la catégorie principale aujourd'hui.
Notre DD, donc notre consultant national qui participe à cette émission, m'a coupé l'herbe sous le pied puisqu'il nous restait à évoquer donc la quatrième manche de ta saison avec donc le bol d'or où là tu es vainqueur.
C'est ça, mais le bol d'or, donc, du coup, le bol d'or est une belle épreuve pour nous. On sait que le bol d'or, c'est généralement une épreuve qui nous réussit bien, puisque le tracé, en fait, convient parfaitement à notre moto. C'est la même avec cette moto-là, depuis 2017, on a déjà gagné deux fois cette épreuve, et on savait que la règle de l'USD qui nous convient bien, qui favorise la moto entre le châssis, la puissance de la moto, et on sait qu'on arrive à performer un peu mieux là-bas. Et sachant la saison qu'on avait faite, on s'est dit, tiens, ça peut être l'épreuve qu'on peut gagner. On avait encore des chances pour remporter le titre, parce que mine de rien, on avait marqué des points. On avait à peu près 60 points de retard et il y avait 85 points à jouer. Donc on s'est dit, on va absolument tout donner au bol d'or pour remporter le maximum de points. Et ça a été chose faite, puisque en qualification, on était à la deuxième place. Mais qu'à 14 millièmes de la pole position, on sait que c'est la BMW, c'est un peu leur point fort en qualif, c'est vraiment ils mettent un point d'honneur à la fin des pôles. Et nous, on était très proche d'eux, alors que c'est pas forcément notre point fort, c'est pas là où on cherche à vraiment performer. Donc on marque 4 points sur 5, on a bien commencé le 8e, et puis ensuite à la course, malgré les conditions difficiles en début de course, où le matin on a eu des grosses averses et des orages. Donc le début de course était sur des conditions difficiles avec des pneus fluides pour quasiment tout le monde. Et donc je suis parti en tête de la course, tout s'est bien déroulé. On était un peu décalé avec l'arrivée, donc ça, on passait de la première à la troisième place pour les six premiers tours de course. Mais on avait vraiment un rythme imposant. On a réussi à être solide, mes coéquipiers, moi-même, et puis la moto en globalité a été très bonne. Et ce qui fait qu'on a passé le sixième de course, on a commencé à passer en tête et accroître au fur et à mesure notre avance. Donc on a marqué les 10 points de la première place à 8 heures de course. Ensuite, nos trois concurrents principaux étaient la Honda TSR, la Yamaha, la numéro 7, et puis la BMW 37. On savait que la BMW était la deuxième pour nous battre au championnat. Et par contre, il fallait vraiment qu'il arrive un gros pépin, on dirait, à la Honda et puis à la Yamaha. Ça a été chose faite pour la TSR, puisqu'il casse le moteur en pleine nuit. Donc, en gros, par rapport à notre position, il fallait qu'on gagne la course et que le yacht abandonne. Donc, nous, on a tout donné. On finit à la 16e heure de course en tête aussi, avec quasiment 9 tours d'avance. Et sans aucun problème sur la moto, avec le rythme toujours le plus imposant en piste. Et puis, on était vraiment bien. Et malheureusement, on a eu un petit malheur, parce que toujours cette année, on a fait un petit malheur. J'ai eu une chute sur l'huile. Les 10 pilotes étaient tombés sur une huile qui était pas marquée par les commissaires et que personne n'a pu le remarquer d'ailleurs. Donc une grosse chute collective. On a eu énormément de chance, que ce soit pour les motos qui se sont pas percutées entre elles, que ce soit, je dirais, les pilotes ne sont pas percutés, voire même puis tous les autres. Donc, par chance, j'ai réussi à avoir une moto pas linéaire, à mettre la moto au centre et repartir très rapidement. On n'a pas eu qu'un tour et demi. Donc, on avait toujours fait le tour d'avance. Et à partir de ce moment-là, on a juste terminé quelques heures de course, je dirais tranquillement, pour aller l'arrivée. Donc, on gagne cette épreuve. On marque, du coup, les 80 points, maximum de la course. Le Yard, on termine quatrième. Donc, grâce à ça, on passe de la quatrième à la seconde place du championnat, vice-champion du monde. Donc, c'est déjà un très bon résultat. Mais surtout, on gagne une dernière épreuve. Elle était d'autant plus difficile, que notre coéquipier, Sylvain Gatry, est tombé malade, dans le tour de 11h minuit. Et donc, à partir de 5h du matin, on a roulé à deux avec mon coéquipier, Étienne Matou. Et donc, physiquement, moralement, c'était vraiment une grosse épreuve pour nous, parce que ça risque 50 minutes entre chaque relais. Et quand il nous reste 10 heures de course à faire, ça accentue l'effort, accentue la concentration. Donc, pour nous, c'était une vraie belle épreuve de pouvoir trouver une vitesse, malgré d'être à deux pilotes, trouver notre force qu'on a eu souvent dans la saison, et puis avoir cette belle revanche en gagnant cette épreuve du bonheur.
Quand on pilote une moto à deux, quels sont les inconvénients et qu'est-ce qui change dans la préparation le passage des relais, etc.?
Bah, simplement, là, pour le team, ça change strictement rien. Là, pour la moto non plus, ni les pneus. Mais par contre, ça change énormément pour nous, les pilotes, en condition physique, puisque, comme je disais d'habitude, on a en gros 1h40 pour se reposer, c'est-à-dire se changer, prendre une douche, aller au kiné, manger un petit bout, et se repréparer. Mais c'est 1h40, ce qui fait qu'on arrive à récupérer quand même correctement pour être en forme pour notre prochain relais. Là, le temps qu'on descende de la moto, clairement, le temps est décompté, sachant qu'il faut toujours faire un peu des interviews, revenir au camion, se changer, prendre une douche, quand même manger, voir un kiné. Et en fait, de suite, il faut être, on va dire, après 15 minutes avant notre relais, dans le stand prêt. Donc, ça reste absolument aucun temps de récupération. On a à peine le temps de finir de se respirer, qu'il faut déjà se changer et repartir. Et quand on fait ça une fois, deux fois, trois fois, on va dire que ça passe. Mais quand on arrive au 6e, 7e relais d'affilée, ça commence à être tout compliqué. Donc, il faut s'adapter, il faut rester concentré. Mais malgré tout, on a quand même réussi à être les plus rapides en piste pendant tous ces moments-là. Et ce qui prouve vraiment notre efficacité pendant ces moments-là, la préparation qu'on a pu faire cet hiver avec la moto et physiquement. Donc, vraiment content de ce résultat.
Ouais, donc ça laisse pas le temps de faire une micro-sieste, comme c'est le cas quand vous êtes dans des relais à trois. Et donc, ça demande une condition physique hors norme, non?
Bah, tout à fait. C'est quand même vraiment difficile de tenir physiquement sur tes relais. Après, c'est une circuit, un circuit qui est un peu moins physique que les autres, puisque les grandes lignes droites, un tout petit peu plus important de se reposer. Mais tout de même, c'était un circuit quand même qui demande beaucoup d'efforts avec plus de 3% de calorie.
C'est toujours ce même duo ou ce même triplé tout au long de la saison?
Ouais, on change pas les pilotes. Les pilotes sont sélectionnés dans l'année. Donc on est trois pilotes. Et puis les trois pilotes restent généralement les mêmes tout au long de la saison.
Sylvain Gattoli et
Étienne Masson.
Comment vous vous organisez, puisque bon, toi tu es sur Confolens, d'autres, je suppose, c'est ailleurs du département, autrement on le saurait. Comment vous pouvez vous organiser et comment il y a cette collaboration qui se fait au cours de la préparation? Vous quittez vos domiciles, vous êtes ensemble combien de temps et ensuite comment vous faites sur la préparation de l'entraînement?
En fait, on a des entraînements qui se déroulent l'hiver, pas énormément finalement. On fait, on va dire, à peu près une semaine en Espagne l'hiver, tous ensemble, on va sur différents circuits, on roule, et après les essais pré-saison. Donc, c'est pas énormément de temps ensemble, mais on arrive rapidement à s'accorder, à travailler ensemble. Chacun fait son sport, ses activités de son côté. Chez eux, généralement, soit moi chez moi ou Étienne, tout le monde s'entraîne de son côté pour être prêt en moto et en différentes activités. Et après, quand on se rejoint sur les circuits, on arrive à travailler tous ensemble et à avoir une bonne entente pour aller de l'avant et tout le monde vient travailler ensemble sur les courses.
La communication se fait également, par téléphone, vous gardez cette relation même si vous passez quelques semaines sans compétition, vous êtes toujours en relation?
Tout à fait, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des messages, on s'appelle, on donne des nouvelles, on essaie de faire un peu des entraînements ensemble, parfois on se rejoint pour faire des événements, des fois des événements avec des partenaires, donc sur différentes activités, des salons, on se rejoint, puis après sur les entraînements en Espagne, etc., mais avec Étienne plusieurs fois, en entraînement, en flat track, donc ils font une discipline ensemble, donc ça nous permet quand même d'apprendre à bien se connaître, de s'entraîner depuis longtemps, donc c'est plus facile.
La moto, elle est toujours préparée par le Yoshimura Cert Motul. Est-ce qu'elle a subi des évolutions au cours de ces diverses saisons, Greg?
Voilà, la moto, donc, c'est une Suzuki GT6000, mais qui est principalement préparée par le préparateur Yoshimura, avec l'aide, bien entendu, du Cert. Donc, en collaboration ensemble, ils font cette moto et ils continuent le développement avec simplement le développement se fait avec toutes les informations qu'on nous leur donne pendant les courses, et derrière ils arrivent à travailler sur tout le développement pour nous amener toujours des nouvelles pièces, des nouveaux bandes, des ajustements suspension, des petites choses électroniques. Mais c'est vrai que notre moto arrive en bout de développement, donc maintenant on sait qu'elle est performante, c'est une machine performante, et il est difficile d'apporter des gros changements à cette moto. Donc c'est vrai que la moto est sortie en 2017, donc elle commence à être un peu différente, mais on voit quand même qu'elle est quand même, elle reste performante.
Par rapport au Yart Yamaha, donc vous vous situez où en termes de performance moto?
Chaque moto est vraiment spécifique. La Yamaha a des points forts et nous a des points forts. Je dirais que les motos se ressemblent un petit peu, et comme je disais, ça dépend des circuits. Un circuit comme Spa-Francorchamps favorise plus la Yamaha que le circuit du Bollor favorise plus la Suzuki, mais c'est des motos qui fonctionnent similairement pareil. Aujourd'hui, les motos qui ont été développées plus récemment sont principalement la BMW qui ont sorti une moto il y a 2 ans, et puis la Honda aussi, qui ont des évolutions techniques un peu supérieur à nos motos, mais tout de même ça ne change pas les performances pures, parce qu'on arrive à être aussi rapide que l'on piste grâce au développement de l'équipe.
En fait, donc vous êtes toujours c'est un quarteron d'équipes qui sont potentiellement tous les ans ouvertes à la compétition en vue du championnat du monde. Donc on a bien compris, il y a la VRT Yamaha, il y a le FCC TSR Honda, le BMW Motard Endurance Team, et puis vous.
C'est ça, en gros, c'est les quatre équipes fortes du championnat. Mais tout de même, faut pas oublier tous les outsiders qui sont là. Il y a la KM99, la Vitais, la 363, qui va finir deuxième au Bol Nord. La Kawasaki numéro 11, qui est également performante. Donc, toutes ces motos-là, ça reste des motos, des gros budgets, des budgets officiels, qui peuvent être dangereuses pour nous à tout moment.
Au niveau de compétition, c'est sûr que c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que économiquement, pour Suzuki, pour toutes les écuries auxquelles vous êtes porteur, c'est un gain économique.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un championnat qui est tout de même très réputé. Les courses qu'on est même plus du monde, le Bol Nord, et surtout les victoires de Suzuki, c'est des courses mondialement connues qui sont vues par des milliers de personnes à la télé dans différents pays. Donc, pour les marques, c'est une preuve de... C'est une preuve de solidité des machines, de fiabilité des machines, de performance, puisqu'on sait que ces motos-là, elles tournent 24 heures sans s'arrêter. Et du coup, effectivement, gagner ces courses leur permet d'avoir une belle image et surtout, derrière, de pouvoir vendre des produits dans différents pays et créer leur image de marque et leur réputation. Donc, c'est important pour eux d'investir et d'être performants en l'urgence.
Bien sûr. Bien sûr.
Est-ce que ces motos, toutes ces motos dont on vient de parler, sont dérivées de la série ou est-ce que ce sont des prototypes?
Non, tout à fait, c'est uniquement le règlement oblige à avoir des motos dérivées de la série, donc c'est toutes les hyper sportives de série. Notre cas, c'est une Suzuki GT6000 qui se vend dans le commerce, et puis toutes les autres marques aussi ont leurs motos qui se vendent dans le commerce. Donc après, bien entendu, il y a énormément de modifications qui se font sur la moto. Alors, on change les fours, on fait pour le client, les amortisseurs arrière, on change l'électronique sur les motos, on adapte ces motos-là à l'endurance, mais la base de la moto reste une moto de série.
La saison vient de se terminer. Est-ce que tu peux te projeter sur la saison prochaine, Greg, et nous en dire un petit peu plus?
Ouais, la saison prochaine. Donc, moi, j'ai déjà re-signé mon contrat. J'ai eu différentes offres pour l'année prochaine. Mais finalement, pour moi, c'est important de rester dans l'équipe que je connais. Donc, j'ai re-signé dans la même équipe de Suzuki Yoshimura Cert Motul. Et du coup, ça se déroule bien avec eux. Je me sens très bien avec cette équipe. On l'a prouvé, on peut gagner des courses. On peut regagner le championnat, donc c'est l'objectif numéro 1 pour moi l'année prochaine.
Au vu des 4 épreuves dont on a parlé tout à l'heure, quels sont à ton avis les points sur lesquels vous voudriez avancer un petit peu, donner un plus à la moto et à ses pilotes par votre conséquence?
Oui, on a toujours des remises en question à faire, on a toujours du travail sur nous-mêmes à faire, que ce soit au niveau entraînement, au niveau préparation, niveau vitesse, endurance. On a toujours des petits points clés où on peut travailler, dont on connaît nos points forts et nos points faibles. Et du coup, chaque année, on essaie de travailler dessus pour devenir de plus en plus fort et surtout pas commettre d'erreurs. Et après, on sait que l'endurance, mine de rien, il faut quand même une bonne part de réussite et de chance pour finir ses courses. C'est pas qu'une question de performance. On l'a vu d'ailleurs cette année avec nos deux épreuves, surtout celle du banc, où on aurait dû clairement gagner l'épreuve. Et malheureusement, à cause d'une erreur de notre pilote, perdre tout le champ dès le début de course. Donc voilà, on connaît que le travail qu'on a à faire cet hiver, on va le faire, on va se donner au mieux pour pouvoir réussir par la suite.
C'est vrai que pour ceux qui aiment les activités comme celles que tu pratiques, Greg, tu es venu comment en 2004? Avant 2004, tu es venu comment à la moto? Comment tu es venu pilote? Et qui a été te chercher pour aller notamment dans ces grandes écuries ou dans ces grandes teams?
Alors, en fait, moi, j'ai simplement commencé la moto en 2004, puisque j'étais passionné par la moto. J'ai demandé à mes parents de faire de la moto. Et on a commencé la moto en tant que team privé, comme beaucoup de jeunes le font, comment on pourrait faire différents sports. Et j'ai réussi à performer, à être, on va dire, pas trop mauvais, j'étais pas très bon non plus, mais à me faire plaisir sur la moto, à vraiment j'avais cette passion de rouler, et de fil en aiguille, d'année en année, on a réussi à trouver des places dans différentes équipes, pour justement pouvoir percer, grâce à l'aide de mes parents, de ma mère qui était derrière moi, et ça a permis d'accéder des teams, et moi j'ai réussi à saisir ces opportunités, pour me montrer et derrière être opéré au fur et à mesure dans différentes équipes pour rebondir et derrière avoir quelques titres à petit niveau et gagner des courses. Et après que ça, je me suis fait remarquer par les grosses équipes et principalement en endurance et derrière à devenir pilote professionnel. Ce qui veut dire simplement pilote professionnel pour moi aujourd'hui, c'est un pilote qui est clairement payé pour rouler. Et donc c'est mon cas depuis 2016. Donc aujourd'hui, grâce à tous les efforts qu'on a pu donner, la famille, mon entourage, mes partenaires qui m'ont aussi aidé financièrement à payer mes débuts, grâce à tout ça, on a réussi à percer, à se faire repérer, à saisir les opportunités, à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et tout ça, et qu'on arrive à arriver dans ce système officiel. Mais je pense que le plus dur, finalement, c'est pas d'y accéder, mais c'est d'y rester. Moi, je dis, ça fait déjà depuis fin 2017 que je suis au sein du CERF. Et pour être dans une telle équipe avec de tels résultats et qui ont autant de titres, c'est difficile. Il faut rester performant l'année dernière et prouver qu'on a sa place dans le team. Et pour l'instant, c'est mon cas. Donc, je suis moins satisfait de pouvoir vivre de la passion et de faire partie d'une équipe-là. Mais c'est vrai que c'est pas un métier, on pense que c'est toujours un métier facile de faire de la moto et de vivre de sa passion. Mais c'est un vrai travail.
Tu as quel âge, Greg?
Moi, je viens d'avoir 35 ans.
Combien?
35.
Et pilote, c'est, il n'y a pas d'âge pour arrêter, non.
L'âge pour arrêter d'être pilote, mon quotidien dans la il y a quelques années, à l'âge de 42 ans. Là, Sylvain Gatry vient d'arrêter la compétition à l'âge de 42 ans, malgré tout, il y a différents projets pour faire du développement. Donc, je dirais qu'une carrière de sportif, en compétition, c'est aux alentours des 42 ans, donc il faut espérer qu'il me reste quelques belles années devant moi.
Oui. Greg, quels sont les avantages que tu retires d'avoir commencé par la vitesse et d'être aujourd'hui en endurance? Quels sont les plus que ça t'a apporté par rapport à l'endurance?
Je dirais principalement la vitesse en elle-même. Ça permet d'avoir une pure vitesse sur un tour, d'avoir l'avantage de connaître les cours de vitesse pour doubler les gens aussi, d'être assez incisif sur à doubler les personnes, à être maintenir dans le rythme, ça aide beaucoup à ça.
La saison prochaine, donc tu restes au sein du team CERT. Est-ce que tu connais les courses qui sont inscrites au programme de l'année 2024?
Non, le calendrier n'est pas encore sorti, mais il y a des qui sont les 24 du Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka et le Vol d'Or de Brasté. Et normalement, il devrait y avoir une course supplémentaire qui sera pas juste au calendrier, mais pour l'instant, il n'est pas sorti, donc voilà.
Si j'ai bien compris, Greg, il y en a 5 dans la saison.
Ouais, c'est ça.
comment tu es venu résider sur Hiers, hein? Il faut connaître que c'est une petite commune près de Confolens. Comment tu es venu en Charente?
Mais en fait, moi, je suis né en Angleterre et mes parents sont venus habiter en France quand j'avais seulement 3 ans. Donc, j'ai toujours vécu ici. Ils ont décidé de venir dans cette région, Charente. Et donc, je suis toujours resté là. Et finalement, j'ai construit une maison aussi à Hiers depuis quelques années. Donc, j'aime bien la région. Je ne suis pas forcé d'aller ailleurs. Donc, je suis toujours resté ici.
Est-ce que tu regardes un petit peu, bon, à part la moto, est-ce que un petit peu agrandir ton champ? Est-ce que tu as d'autres activités où tu prends plaisir à voir au niveau sportif?
En fait, j'ai une société de baptême moto, donc ça arrive dans le milieu de la moto, mais c'est quand même une activité qui est différente. Donc ma société s'appelle To Ride Baptême. Donc cette société permet à toutes les personnes de venir en tant que passager sur une moto hyper sportive. On est souvent un ou deux pilotes, des fois trois pilotes. On fait différents circuits dans tout le sud de la France, qui parlent de la course, des circuits de Vigan, de Saint-Onge, Noguera, Pau, Manicourt, où justement les clients viennent au lieu d'aller faire, on va dire, une activité telle que un baptême en voiture ou même un saut en parachute ou des choses comme ça, ou en élastique, et ils viennent faire un baptême moto, on fait tout l'équipement et on fait découvrir notre activité qui est une vraie activité sportive et une vraie activité à sensation. Et cette activité nous permet aujourd'hui de recevoir nos partenaires, de faire aussi recevoir les fans parce qu'on a un peu plus de temps, donc tous les gens qui veulent nous voir toutes les journées peuvent venir et participer à ces journées de baptême et justement découvrir cette activité. Donc ça, c'est pour moi une activité plutôt intéressante à faire dans le grand public, on va dire. Et ensuite, je suis aussi moniteur pour différentes écoles de pilotage. Principalement, je travaille au circuit du Val de Vienne, en Dijon, parce que je suis à côté, mais je travaille aussi sur différents circuits avec différentes organisations en tant que moniteur. Et je suis aussi moniteur pour l'école des enfants, le Val de Vienne Moto et l'école d'enfants, et qui permet à tous les jeunes de découvrir la moto aussi. C'est des petites motos de l'âge de 6 ans à 16 ans. Et du coup, je fais partie de l'organisation pour essayer d'aider à promouvoir le sport. Et bien entendu, après, je fais des cours particuliers aussi pour certaines personnes qui souhaitent devenir des cours, tout simplement, pour les amateurs ou les plus confirmés.
Donc, le calendrier... En 2024, on sera dans une année olympique. Et moi, ma question, alors peut-être que tu pourras pas y répondre, puisque on parle d'endurance, on parle de moto, et ma question, elle est simple, pourquoi ce sport? Parce que c'est quand même le sport, l'Olympiade, ce qui va se dérouler en France. Pourquoi ces activités-là sont un petit peu oubliées?
Je pense que les activités, les sports mécaniques en général, ne sont pas considérés comme sport collectif ou sport d'athlétisme ou tous ces sports qui sont pas dans les Olympiades. Ça n'a jamais été, on n'a jamais vu des sports mécaniques dans le milieu. Je pense que c'est un différent milieu, tout simplement. Tout ce qui est sport mécanique, que ce soit toutes les activités en moto ou en bateau, en jet ski, en voiture, toutes ces petites activités est un milieu complètement différent. Malgré que ce soit un sport, c'est pas un sport d'athlétisme ou de cyclisme ou choses comme ça. C'est un différent milieu, tout simplement.
Oui, parce qu'on en a ajouté depuis la naissance des Jeux Olympiques. On en a ajouté des sports et des sports.
Bien sûr, mais bon, organiser une course de 24 heures dans Paris, je pense que c'est compliqué.
Non, mais ça se déroule pas qu'à Paris. Hein. Ça peut se dérouler sur au Castellet. Ça peut se dérouler. Tous les matchs ne se font pas quand même à Paris. Si. Il y aura bien des championnats qui vont se dérouler un petit peu partout en France, comme la Coupe du Monde de rugby. Au fait, tu regardes ça, l'équipe de France de rugby?
Ouais, je suis quasiment tous les matchs. J'aime bien le rugby, donc j'ai bien sûr. Des équipes et tous les matchs pendant cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a la tournée de destination, j'ai regardé aussi. Donc, moi, j'essaie de suivre tout de même différents sports, comme le cyclisme aussi, j'ai suivi. Je suis aussi pas mal de sports et quand on n'arrive pas, j'aime bien.
Est-ce que tu as des enfants, Greg, et est-ce que ton enfant ou tes enfants auront ou sont susceptibles d'aimer une activité sportive à côté de ton domicile?
Non, effectivement, j'ai pas d'enfant. Pas pour l'instant, en tout cas.
D'accord. Non, parce que des fois, le papa, il entraîne son enfant sur une activité sportive et l'enfant le suit plus tard sur la moto, que ce soit au foot ou au tennis. Voilà, ma question, elle était comme ça.
Greg, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter concrètement pour 2024?
Pour 2024, simplement de renouer avec le titre, ça serait une belle chose. Ça fait, on a gagné le titre de l'année d'affilée. Là, pendant 2 ans, on a fait 2 fois vice-champion en gagnant les courses. Maintenant, on sait bien gagner les courses, mais ce serait bien aussi de regagner un titre.
On sait que en plus, tu es au sein d'un team qui est très performant, donc pour la préparation de la moto. Donc, on sait que tu vas participer de manière active à la conquête du titre pour 2024. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci encore d'avoir accepté notre émission, Greg, notre invitation. On te souhaite le plus grand bonheur possible, la santé, parce que ça, c'est important.
Oui.
Et donc, de faire en sorte qu'on te retrouve sur la plus haute du podium l'année prochaine.
Et la prudence.
Et la prudence. Merci à vous.
Greg, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite le meilleur. À tout bientôt, Greg. Ouais.
Attitude.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va parler des résultats des clubs charentais ce week-end. Un week-end consacré notamment à la Coupe de France en football avec les 10 charentais rescapés. On jouait le 4e tour de la Coupe de France, synonyme des maillots et des équipements remportés par les clubs encore présents à ce tour. Et les Charentais ont été reçus 4 sur 10. 4 clubs iront au 5e tour. Dans le détail des clubs qui étaient qualifiés, Ruffec s'est imposé à l'issue de la séance de tir au but à Charente-Limousine dans le derby du week-end. Donc Ruffec sera au 5e tour. L'Alliance 3B crée l'exploit de ce tour avec une élimination de l'Eschka Ferré National 3, alors que les hommes d'Adnan Elarchi perdaient en première mi-temps 2-0. 3 buts ont été inscrits en deuxième mi-temps par Dacunha, Touri et Jala. Finalement, on est arrivé à la séance des tirs au but et au tir au but, l'Alliance 3B s'est imposée et signe l'un des plus beaux exploits du week-end. Vindel, malheureusement, s'est incliné 3-0 du côté de Médoc Atlantique. Vindel qui avait une division de moins que son adversaire. C'était également l'écart entre le Roi et Villeneuve-d'Ornon. Le Roi qui s'incline 4-1 à Villeneuve-d'Ornon. Tirage compliqué à l'extérieur chez une régionale 1. Sireuil s'impose 1-0 au Bousca dans un duel d'équipe de régionale 2. Belle performance pour les hommes de Didine Bensliman qui rallie une nouvelle fois le 5e tour. Cognac s'incline à domicile contre Rochefort. La tâche était compliquée pour Cognac qui évolue en régionale 3, puisque Rochefort est leader de sa poule de R1, donc c'était un gros match en perspective, et malheureusement, Cognac s'est incliné. Champigny perdait 3-4 contre Périgueux, équipe de D1, et le match a été arrêté à 10 minutes de la fin, donc à voir ce que les instances décideront par rapport à l'issue de ce match. Mornac, le petit poussé charentais, recevait Rive Droite 33, une équipe de Régional 3. Mornac qui perdait 1-0 a égalisé par Roy dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Et au cours d'une séance de tir au but interminable, puisqu'on a été jusqu'au 10e tireur, c'est malheureusement les Girondins qui se qualifient avec 9 tirs au but contre 8 Mornacais. Donc belle performance pour Mornac qui sort la tête haute. Et enfin la CFC qui s'est déplacée à Échiré, l'emporte 3-0. Voilà, il y avait 3 divisions d'écart, donc hiérarchie respectée pour les Angoumoisins. Arnaud Buisson, Koulibaly et Siganda ont marqué les buts angoumoisins. Prochain tour de la Coupe de France, le 5e tour, donc dans 2 semaines. On sera dans une semaine pile poil le tirage au sort de nos 4 Charentais, pardon, donc Ruffec, l'Alliance 3B, Sireuil et la CFC. On espère que ces équipes-là rallieront le 16e tour, 6e tour synonyme de dernier tour régional. Également à vous signaler que les coupes départementales ont commencé avec notamment la coupe de Charente, il y a aussi la coupe de Nouvelle-Aquitaine qui ont commencé. On donnera les résultats plus tard dans la saison puisque là il y avait vraiment beaucoup beaucoup de matchs. Donc voilà, on souhaite vraiment que nos Charentais aient le plus loin possible dans ces différentes coupes. On va parler de rugby désormais avec la défaite du SA15 à domicile contre Montauban. Défaite 26-31, un match que nous avons débriefé avec Fred et Loïc précédemment dans le SA15 Mag Attitude. Cognac recevait Anglet et Cognac s'impose avec le bonus offensif, victoire 35-7 des Cognacais qui confirment vraiment leur bon début de saison. En handball, l'ETEC signe sa première défaite, défaite à Bouguenais 42 à 35. L'ETEC descend à la troisième place du classement avec 10 points. C'est 2 points de moins que Libourne et que Limoges. En National 1 féminine, défaite également pour la CH qui s'incline du côté de Rochechouart-Saint-Julien dans un duel classique entre ces deux formations. Défaite 31-22 des Angoumoisines qui sont 5e au classement. Bergerac est en tête de la poule. Enfin, en National 2, défaite également de l'Algio Cognac, défaite à Asson 26-20. Cognac est 7e au classement avec 7 points. Un mot de basket également avec le CBA Cognac Basket Avenir qui disputait son 4e match en National 3 masculine. C'est une nouvelle défaite pour le promu Cognacé. Une défaite à domicile contre Chambreteau, défaite 70-82. Cognac, malheureusement, est dernier avec 4 matchs et 4 défaites. L'apprentissage douloureux se poursuit pour les hommes du président Loïc Arami. On va également parler de sport de combat pour terminer ce flash résultat avec Cédric Doumbé, une vieille connaissance des Charentais. Cédric Doumbé qui a débuté à Angoulême avec la team Fly Boxing, hein, qui s'est notamment illustré dans les premières éditions du Choc des Guerriers. Et bien Cédric Doumbé qui est passé du coup du full contact au kickboxing au K1, et bien maintenant il fait du MMA. Et il était hier soir à Paris, aux Zénith de Paris, pour la première édition du PFL. C'est une ligue américaine de MMA. Et il rencontrait Jordan Zebo. Et Cédric Doumbé, comme à son habitude, finalement, a été expéditif puisqu'il a mis son adversaire KO en 9 secondes. Un KO express, hein, devant les joueurs du PSG, notamment Mbappé et Kolo Muani, qui ont pu admirer ce spectacle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. On reviendra notamment en football sur les championnats de National 2, les championnats régionaux et départementaux. En attendant, je vous laisse avec Culture Sport, avec Didier et Dédé. Bonne soirée, au revoir.